Depuis 2003, Head Records, label indépendant montpelliérain, distille sa musique à qui veut bien l'entendre. Abel Gibert, son fondateur, nous parle de son parcours et comment il a su diversifier ses activités pour pouvoir continuer d'exister.
J'ai monté le label à cause de Goodbye Diana. J'aidais beaucoup Basement Tapes Industry, un label du Gard. Et j'ai dit, il y a un groupe à Montpellier là, il faut sortir le disque. Ils voulaient pas. Donc j'ai sorti le disque et j'ai monté le label. Du post-rock instrumental. Parce que l'asso existait déjà. Je l'ai monté en 2003 pour organiser des concerts. Et en 2006, j'ai monté le label. Et j'ai utilisé l'asso pour gérer l'argent, quoi. Parce qu'à cette époque-là, j'étais pas salarié, j'étais bénévole. Il y a que 4 ou 5 ans que je me rémunère avec ça, autrement j'avais toujours un travail à côté. Je bosse aussi pour un label de jazz qui s'appelle Rude Awakening. Je bosse aussi pour un second label de jazz qui s'appelle Vent du Sud. Notre activité principale, c'est quand même de créer de faire des créations. D'aider les gens à trouver des financements pour créer de la musique, quoi. Que des musiciens puissent avoir des salaires et vivre de leur musique. Après aussi, trouver des tournées, des concerts, donc de la communication, quoi. En fait, j'ai même l'impression que mon travail, c'est de la communication. Bon, après, il y a le côté administratif, c'est inévitable. Mais après, ce qui fait que tu trouves des dates, c'est que tu communiques sur les artistes. Et si tu vends des disques, c'est parce que tu communiques. Le but, c'est que les artistes aient une vitrine, quoi. Donc finalement, le label, aujourd'hui, c'est plus une vitrine qu'autre chose, parce que c'est quand même de plus en plus dur de vendre des disques, hein. De gagner de l'argent avec des disques, c'est presque mission impossible aujourd'hui. Avec Head Records, on y arrive parce qu'on a des groupes qui tournent, mais tu vois, le jazz, le milieu jazz a beaucoup tourné pendant très longtemps sur les subventions. Les subventions aujourd'hui ont tendance à disparaître petit à petit. Tu vois, on a souvent des réunions avec des réseaux jazz et on s'aperçoit bien que c'est de plus en plus compliqué pour les musiciens de jazz. Bon, y a des gens qui s'en sortent toujours parce qu'ils ont une aura, une carrière, mais ça devient quand même de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui m'envoient des maquettes ou des enregistrements via internet. Après, c'est surtout ma curiosité qui fait le travail, quoi. Par exemple, Jean-Jean, il m'avait contacté pour me demander comment il fallait faire pour trouver un label. J'ai répondu qu'il fallait tourner, rencontrer des gens et que les choses se feraient toutes seules. Le truc qui est drôle, c'est que 2 ans après, je suis allé les voir à un concert à Montpellier et je suis allé leur dire votre prochain album, je le sortirai. Très franchement, il y a très peu de groupes que j'ai signés parce qu'ils m'ont envoyé une maquette. Hein. Après, étant à Montpellier, j'ai souvent tendance à sortir des groupes de la région par affinité, par contact humain. Et je suis de plus en plus persuadé, en tout cas par rapport au travail que je fais, que j'ai besoin de voir les groupes en concert pour savoir ce que ça véhicule comme énergie. Aujourd'hui, le disque peut pas se vendre sans live, donc si le groupe en live il tourne pas, le disque il se vendra pas, quoi. J'ai l'impression de faire des grands écarts entre des styles musicaux, du jazz rock par exemple avec Les Yeux de la Tête, et puis du doom avec Verdun, et je me demande si la ligne directrice du label est claire pour tout le monde, et puis je m'aperçois que des fois il y a des gens qui peuvent acheter du morse, du hardcore noise et du pneu, noise plutôt matrock. Ça veut dire que même si les musiques sont assez différentes, le public s'y retrouve et arrive à acheter des artistes qui sont différents, quoi. Donc finalement, les ponts se font entre les différents styles musicaux, quoi. Je me donne aucune frontière. C'est mes goûts personnels. Je sortirai pas un groupe si ça me plaît pas. Donc c'est avant tout, il faut avant tout que le groupe, la musique me plaise pour que j'ai envie de travailler dessus. Et puis le côté humain aussi est très important. Si humainement ça se passe pas bien avec le groupe, j'ai pas envie de passer mon temps à travailler ces artistes-là, quoi. Parce que parce que c'est beaucoup de temps personnel engagé, quoi, même si j'arrive à gagner ma vie aujourd'hui avec ça. Donc si j'ai pas la passion qui me drive, c'est pas possible, quoi. Caler les sorties de disques par rapport aux tournées des artistes. Alors je me retrouve en octobre à sortir 3 disques d'un coup, mais parce que Jean-Jean a des dates en septembre-octobre, donc il fallait absolument que le disque sorte à ce moment-là, que les artistes puissent avoir le disque en concert pour le vendre. Je fais tout simplement coller les sorties de disques par rapport à l'actualité du groupe, quoi. Le live est primordial pour faire parler des artistes, donc c'est presque le live qui prend plus d'importance que la sortie du disque. Donc c'est toujours très bien pour les artistes d'avoir les disques placés dans les grandes surfaces culturelles que vous connaissez tous. Mais c'est pas là qu'on fait le plus d'images ou de ventes, quoi. C'est jamais joué d'avance, en fait, hein. Il n'y a pas de généralité, quoi. C'est le public vraiment qui décide, hein. Qui va au concert, pourquoi, comment, qui achète les disques en magasin. Enfin, j'essaye toujours à mettre le plus de pions de mon côté en offrant des fenêtres médiatiques aux artistes, en essayant de les faire jouer le plus possible, mais rien n'est jamais gagné d'avance. Hein. C'est tout le temps un coup de poker, en fait. Hein. Généralement, les groupes arrivent avec leur enregistrement, ils savent déjà à qui ils vont confier l'enregistrement. Il y a quand même une ligne... Il y a des choix que font les groupes, que je leur laisse. Hein. Les pochettes aussi, les groupes souvent arrivent avec les pochettes. Hein. Ils savent déjà la couleur musicale que doit prendre leur enregistrement et l'identité visuelle que doit avoir le groupe, quoi. Surtout dans le milieu rock. Les gens savent souvent où aller, comment. Beaucoup moins dans le jazz. Dans le jazz, Rude Awakening travaille souvent avec le même graphiste, hein, Nicolas Claveau, de Montpellier, pour le citer. Et par contre, c'est vrai que dans le rock, tu vois, j'ai déjà eu notamment le split des Suédois, là, de Soma et Pyramido. Ils m'avaient proposé une pochette qui me plaisait pas du tout. Je trouvais ça ignoble. Alors là, on a discuté, quoi. Tu vois, on a essayé à trouver un compromis. Mais c'est la seule fois où je me suis permis de discuter avec un groupe sur l'identité visuelle qu'ils pouvaient proposer, quoi. Parce que ça me plaisait vraiment pas. C'était vraiment problématique. Head Records, étant de plus en plus à l'aise financièrement, je paye des enregistrements de plus en plus régulièrement aux artistes. Donc c'est vrai qu'on discute en amont de qui, pourquoi, comment. Mais généralement, ça se passe très bien. Je suis assez d'accord avec le chemin qu'ils prennent. Ça m'est déjà arrivé de tout payer pour un groupe, hein, et t'attends, quoi. Et alors, il va sortir quoi, hein? Parce que quand tu payes l'enregistrement, le graphiste, hein, je paye tout. J'attends l'arrivée de l'enregistrement, de la pochette, comme si c'était Noël, quoi. Et là, c'est la surprise, quoi. Si ça me plaît pas, je fais quoi? Je fais comme les gros labels, je dis c'est pas possible, les gars, vous retournez en studio. Mais non, je pourrais pas, faudrait tout repayer, c'est pas possible. Certains groupes sur mon label, comme Goodbye Diana, qui font du matrock, le terme matrock vient du fait que les structures des morceaux sont un peu complexes, donc à ce niveau-là, ça peut se rapprocher du jazz rock. Puis il y a des groupes qui, comme Les Yeux de la Tête, qui sont sur mon label, qui eux sortent tous des écoles de jazz, et enfin des écoles de musique, et font du jazz pour certains, pour d'autres de la noise. Donc effectivement, pour le travail que je fais, il y a réellement des ponts entre le rock et le jazz qui se créent très régulièrement. No! labels avec lesquels je travaille sont présents sur les réseaux de distribution dématérialisés comme Deezer, Spotify pour le streaming ou iTunes pour le MP3. Il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent, c'est quasiment nul parce que les MP3 se vendent à quelques centimes, le streaming c'est quelques dixièmes de centimes. Donc si aujourd'hui les gens ne sont plus capables de mettre de l'argent pour acheter de la musique, que ce soit du disque ou du MP3 ou du streaming, quoi, si les gens ne sont plus capables de payer, que va devenir la musique et même la culture dans un plus grand ensemble, quoi. C'est quand même problématique, quoi. Comment des artistes peuvent vivre de leur musique? Il faut quand même que les artistes puissent être rémunérés, parce que la création, effectivement, coûte rien, mais il faut avoir le temps de créer. Si t'es obligé d'avoir un métier pour remplir le frigo, t'auras plus le temps de créer, quoi. Moi j'ai essayé à diversifier les rentrées d'argent en demandant des subventions à l'État, au DRAC, aux régions, aux départements aussi, aux villes. Aujourd'hui les subventions ont tendance à baisser. Et je pense qu'à plus ou moins long terme, il faudra prendre le chemin que prennent tous les festivals, les gros festivals d'été. Je vais pas en citer, mais tous ont à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils vont vers le privé, quoi. Après, les artistes auront toujours envie de créer, il y aura toujours des gens qui seront là pour fabriquer des choses, hein, pour exister. Après, est-ce que c'est pas un modèle social qui doit être complètement réinventé et au final, on a besoin de quoi pour vivre, quoi. On a l'impression qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais pour vivre, on a besoin de quoi d'un toit sur la tête et de nourriture. Bon, aujourd'hui, c'est l'argent qui nous permet d'avoir tout ça, mais est-ce qu'on peut pas imaginer autre chose socialement pour exister, quoi. Quand je demande de l'argent à la DRAC ou à la région, je sais qu'ils n'ont pas un regard artistique, hein, et que c'est purement le travail qu'on fournit, le lien social qu'on crée, qui les intéresse et qui les aide à se réconforter dans l'idée qu'il faut aider les structures pour exister. Comme je disais tout à l'heure, les marques ont absolument besoin de aucun lien social. Ils ont besoin de vendre. Donc effectivement, j'ai quand même beaucoup plus de mal à faire rentrer des aides privées. Pour le moment, j'ai jamais demandé à une banque ou à n'importe quelle autre entreprise d'aider mes artistes. Enfin, je dis mes artistes, d'aider les artistes avec lesquels je travaille à exister, quoi. Cette année, j'aide Marvin, par exemple, à avoir des subventions. Je suis allé à la recherche de financement pour eux, parce qu'ils sont arrivés à un moment où ils avaient besoin de payer un loyer. Et tout simplement, on a créé une espèce d'osmose pour arriver à avancer ensemble. Ce qui, quelque part, est vital pour un artiste qui est toujours sur la route. Il a besoin de rentrer un peu d'argent pour vivre, quoi. C'est difficilement la tournée qui lui permet de vivre. Le disque, c'est de plus en plus dur aussi. Donc, il y a vraiment un modèle économique à créer ou à réinventer. Il y a des gens qui arrivent très bien à créer sans argent. Au final, aujourd'hui, on peut... T'achètes un petit peu de matériel, tu peux enregistrer chez toi. On n'est plus obligé de sortir un disque aujourd'hui pour qu'un groupe existe. Avec des réseaux de musique dématérialisée en streaming ou en MP3, on peut très bien distribuer un disque dans le monde, enfin distribuer des chansons. Bandcamp permet aussi de distribuer la musique en MP3, en FLAC ou même du disque, quoi, sans engendrer des lourdeurs administratives ou logistiques. Finalement, on peut créer sans rien, sans musique. Ce qui m'embête chez les gros labels, c'est qu'ils monopolisent les médias. Par exemple, quand je sors un album à la rentrée, je suis sûr qu'à la rentrée, il va y avoir des tonnes de disques qui vont sortir. Je suis obligé de me battre pour pouvoir offrir des emplacements, des chroniques. Donc, il faut relancer un peu les gens pour que le disque... Il soit chroniqué, quoi. Alors la solution pour ça, c'est de prendre des encarts publicitaires. Tu prends un petit encart publicitaire dans un magazine, hein, et puis là, d'un coup, t'aperçois que c'est plus facile d'avoir des chroniques, hein, pour certains, quoi. À mon niveau, je m'aperçois qu'il y a des magazines qui sont totalement inaccessibles si je prends pas des encarts publicitaires. Et j'arrive à avoir des chroniques de temps en temps sur Rock and Folk, mais par exemple Magic ou Les Inrock, si je m'aperçois très bien que si je prends pas d'encart publicitaire, j'ai aucune fenêtre médiatique qui s'ouvre pour mes artistes. Après, c'est compréhensible parce que les médias ont besoin de la publicité pour vivre. Et si le directeur artistique, il paye des journalistes, des pigistes pour faire des articles, il faut bien que cet argent vienne de quelque part. Donc si c'est pas la publicité qui paye ces journalistes, aujourd'hui c'est pas les ventes de magazines qui vont rémunérer les pigistes, et c'est surtout pas sur Internet qu'une économie existe pour des webzines. Imaginer le label comme une entité nationale, voire internationale, pour offrir une visibilité plus importante sur un territoire plus étendu aux artistes, quoi. Le but, c'est quand même qu'un artiste il puisse partir le plus loin possible pour jouer, pour rencontrer d'autres publics et vendre des disques. Les groupes ont plusieurs niveaux. C'est sûr qu'au début, quand tu commences à jouer, tu joues pour tes amis. Et puis le cercle du public s'agrandit, et plus il s'agrandit, plus il faut pouvoir ouvrir la communication à l'étranger. Et c'est vrai que j'ai toujours essayé d'ouvrir l'étranger le plus possible. Aujourd'hui, Ed Records a une distribution en Angleterre depuis peu. Je me bats pour avoir d'autres ouvertures, notamment vers l'Allemagne. J'arrive à avoir certains réseaux de distribution, parce qu'on fait des échanges beaucoup avec d'autres petits labels indépendants. Quand je sors un disque, que notre label en Allemagne par exemple sort des artistes qui sont dans la même mouvance artistique, on échange des disques. Souvent les petits labels comme les miens ont des réseaux de distribution indépendants, ont au moins une liste de distribution qui leur est propre, sortent les disques dans des concerts, des bacs de disques dans des concerts, dans des festivals. En faisant des échanges comme ça avec des labels, on arrive à avoir une petite distribution qui se fait dans des réseaux informels. C'est quand même très important parce que ça permet à des petites structures comme la mienne d'être présente, notamment j'ai déjà fait des échanges en Israël, en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et sans faire d'échanges comme ça avec des petites structures, c'est des territoires sur lesquels c'est très compliqué de poser des disques, quoi. Les réseaux de distribution aujourd'hui sont quasiment inexistants. Alors quand c'est à l'export, c'est d'autant plus compliqué, quoi. Les frais de port sont importants. Si tu passes en Amérique, en Israël, tu as des frais de douane qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, aux États-Unis, si le disque commence à marcher, on vend beaucoup de disques. Il faut que le disque soit absolument pressé sur le territoire américain pour éviter d'avoir les frais de douane importants et les frais de port importants. Pour le moment, c'est jamais arrivé à Ed Records d'avoir des disques à licence et d'être produits par d'autres personnes sur d'autres territoires. Ça pourrait arriver sur des groupes comme Pneu qui vendent plutôt pas mal de disques. Le dernier album, on a vendu 1000 vinyles écoulés. On va pratiquement le represser là. On a vendu peut-être 2000 CD, 1500, 2000 CD. Ce qui est beaucoup aujourd'hui pour des groupes indépendants, parce que ça fait quelques années que je suis en place, quoi. Je m'aperçois que il y a 15 ans, des groupes qui vendaient 7000 albums sur le territoire français, aujourd'hui on arrive à en vendre 500, peut-être 1000, et peut-être moins de 500, quoi. Les ventes de disques ont chuté en 10 ans. C'est impressionnant comme le support se vend plus, quoi. Au début d'Internet, parce que j'ai commencé à travailler dans la musique au début d'Internet, je misais beaucoup sur les webzines. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup et que c'était une richesse culturelle importante. Aujourd'hui, il se trouve qu'avec les blogs, même les réseaux sociaux, tout le monde devient un média. Et la parole des webzines, de ces médias sur la toile, a tendance à se niveler vers le bas. Et il se trouve que depuis quelques années, que je fais du rapport presse, je m'aperçois que dans les radios, il y a des gens passionnés qui écoutent les disques qu'on leur envoie, qui prennent la parole, qui parlent de choses qu'ils aiment. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand je fais du rapport presse, j'envoie aux radios, aux Radio Campus, toutes les Radio Campus, là, tous les disques que je sors à la rentrée, j'envoie à toutes les Radio Campus, à tous les radios Ferrar Rock, à plein d'émissions indépendantes en plus, et à plein d'autres radios indépendantes, parce qu'en France, il y a un tissu de radios énorme. Je peux envoyer 100 disques pour une sortie juste à des radios toutes différentes. Et ça, c'est quand même énorme, quoi, parce que t'as des radios dans des villages de 400 habitants, t'as des villes où t'as 7 ou 8 radios différentes, et j'ai l'impression que tu touches des gens qui sont concernés par ce qu'ils font, quoi. Et souvent, le gars, il a une émission de radio, et à côté, il va organiser des concerts. Et le mec qui a une émission de radio, c'est un média lui tout seul, quoi. C'est une leader d'opinion, quoi. Et c'est vrai que c'est plus important, au niveau où je suis, de toucher des leaders d'opinion comme ça, que de toucher des gros médias, quoi. Parce qu'au final, quand je me bats pour avoir un article dans un magazine national, je sais même pas qui le lit, quoi. Aujourd'hui, qui achète les grosses machines on voit que des gros journaux... Des journaux journaliers hein, qui sortent tous les jours, on voit qu'ils perdent des millions chaque année, que c'est absolument pas rentable. Alors la presse spécialisée, musicale, je sais pas les mecs comment ils font pour vivre, quoi. À mon avis, ils vivent pas d'ailleurs, ils survivent. Alors qu'en radio, tu touches des gens qui ont pas besoin d'argent pour faire vivre leur passion, l'émission de radio. Hop, une fois par semaine, ils vont faire leur petit truc, les disques qu'ils ont reçus, les coups de cœur. Et j'ai l'impression que c'est ça qui marche le plus, en tout cas dans le réseau rock, indé, dans lequel je gravite, quoi. J'estime que le tissu de radio en France est vraiment primordial pour la communication d'un groupe. Hein. Moi, je suis musicien. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. À la base, je suis musicien. J'ai appris ce métier en étant musicien, en mettant les mains dans le cambouis, en cherchant des dates pour mon groupe, hein, en cherchant des chroniques... Hein. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de me faire un carnet d'adresses et puis après d'utiliser ce carnet d'adresses pour des amis, pour des groupes que j'aimais, des coups de cœur et de réutiliser tout ça pour Ed Records, quoi. Au final, c'est moi qui suis à l'origine de tout, quoi. C'est moi la tête pensante de Ed Records, mais ça fait un peu bizarre de dire ça, mais le prisme de tout ça, finalement, c'est moi, quoi. Bizarrement, j'ai toujours su que je vivrais pas de la musique que je fais. Par contre, au bout d'un moment, je me suis aperçu que je pourrais vivre du label, des recherches de financement, de tout le côté administratif que je peux apporter aux artistes, hein, le support administratif, quoi. Au final, souvent, quand j'ai des coups de cœur ou quand je travaille avec des artistes, hein, je cherche toujours à comprendre de quoi ils ont besoin. Et mon but, c'est de leur apporter ce dont ils manquent. Hein. Et en leur apportant ça, je les aide à exister, et quand je les aide à exister, je m'aide à exister moi. Au final, je leur offre une vitrine, mais cette vitrine, elle m'aide à exister, quoi. C'est une symbiose, en fait, quoi. J'existe pour te faire exister, et t'existes parce que j'existe. Hein.